Donc un énorme projet donc, qui est officiellement présenté comme une opération de réhabilitation du quartier, rénovation des bâtiments, mise en valeur du patrimoine et réaménagement urbain avec environ 12 millions d'euros de fonds publics et européens. Cela s'inscrit dans une logique de valorisation urbaine, de mise en tourisme, de normalisation des espaces. Est-ce qu'on n'est pas face à une double dynamique, savoir d'un côté, tu l'as évoqué, la gentrification qui exclut les habitants habitantes et de l'autre, la transformation des quartiers en vitrines touristiques rentables via des plateformes, parce qu'il faut en parler, comme Airbnb en fait.
Tout à fait. En fait, déjà, il y a une politique de l'État comme ça, il y a des lois qui ont été passées par ces gouvernements, et celui d'avant d'ailleurs, celui de Tsipras aussi. Il y a des lois qui ont passé qui donnent la possibilité aux lobbies, en fait, et aux banques d'enlever les maisons des gens, même si pour des petites dettes, des dettes de 2 000, 3 à 10 000 euros, il enlève la maison, il expulse les gens de leur maison pour ensuite les vendre. Pour des raisons Airbnb. Et du coup, on a un phénomène des gens d'États-Unis, d'Ukraine, de partout. En fait, les gens hyper riches qui achètent ces bâtiments ou ces appartements. Et qui, du coup, après les touristes qui viennent louer ces appartements, ils payent les gens qui. Par exemple, ça peut être un Ukrainien, un millionnaire qui achète un appartement au centre d'Athènes, l'Américain qu'il va venir payer. Il paye l'Ukrainien qui habite à Paris. Donc l'argent part des États-Unis et ils vont directement au camp des Ukrainiens. Et en Grèce, il n'y a rien qui reste. Du coup, déjà, parce que ces gouvernements aussi, ils ont tout vendu en fait. Les trains s'est vendu aux Italiens. Tous les ports et les aéroports s'est vendu aux Chinois. Et il y a presque rien qui est national en Grèce maintenant, en ce moment, public. Il n'y a presque rien, vraiment. Donc, ça, c'est aussi cette politique, je veux dire, cette action, c'est lié dans cette politique-là. Et je reviens sur le point que je disais ironique, parce qu'en vrai, il parle d'un budget de 12 ou 15 millions d'euros, j'ai vu aussi écrit quelque part 15, pour faire une rénovation qui est déjà faite par les gens là-bas. Les soirées de soutien aussi à les buts aussi de l'argent qu'on va récolter, on va les verser à l'assemblée de Prosfika, justement pour continuer les rénovations aussi. Et c'est pas du tout un budget comme ça qu'ils ont besoin. Bien sûr, c'est un prétexte, mais on sait très bien qu'ils vont juste distribuer aux gens de leur entourage cet argent-là. Et que bien sûr, c'est un business, oui, pour l'Airbnb, pour des centres commerciaux, etc. C'est, dans tous les cas, il n'y a rien de solidaire et rien pour l'intérêt commun dedans, dans tous les cas.
Ouais, alors quand tu vis dans un lieu, tu le valorises aussi, puisque évidemment, tu l'utilises. Contrairement aux stratégies politiques qui laissent volontairement à l'abandon, en fait, qui désertent les services publics pour avoir aussi un prétexte d'intervenir, de détruire. Parce que la réalité, là, imminente, c'est les menaces d'expulsion. Il y a une répression policière aussi croissante. Comment vous définissez, vous, puisque je t'associe aussi au comité de soutien, quoi, les limites liées à l'action ? Parce que toi, tu penses que toutes les formes de résistance sont légitimes ?
Bon, ça, c'est une grosse question. Et je peux pas répondre au nom de tout le monde, bien sûr. Et moi, je crois que dans tous les cas, il y a une nécessité, en fait, d'action. Je crois que la résistance se forme par rapport aux actions, par rapport aux actions qu'ils subissent, les gens, en fait. C'est pas de faire de la résistance juste par idéologie. Bien sûr qu'il y a l'idéologie que j'ai citée avant, c'est anticapitaliste. C'est sûr qu'il y a ces dimensions-là. Personnellement, je ne crois pas à la violence en général. Je crois à la résistance. Et que du coup, quand tu es menacé, quand tu es frappé, quand la police assassine, ou, il faut prendre des actions qui tiennent quand même. Parce que sinon, c'est juste que ça revient à abandonner un peu. Du coup, je crois qu'on peut toujours. Il n'y a pas une réponse, à mon avis, mais il y a des choses qui sont nécessaires finalement.
Citer la grève de la faim d'Aristotélis Chantzis, qui pose aussi une question forte, c'est celle de l'engagement du corps comme ultime levier politique.
Bien sûr, oui. c'est aussi une action de résistance. Mmh. Hein, il y a des actions de résistance différentes. Le fait de faire ces soirées de soutien, le fait de jouer de la musique pour faire ces soirées de soutien. Même tout court de jouer de la musique, je veux dire, c'est une forme de résistance. Mais il y a des échelles différentes, on peut dire. Et ça, là, on parle de donner sa vie pour la cause. Donc c'est très puissant et ça démontre, c'est une action, vraiment. C'est une action qui pour moi, c'est vraiment dans la catégorie ultime. J'ai parlé d'échelle. Moi, je crois que toute forme de résistance est bienvenue. Même si on parle, même si on discute sur un sujet, etc., on amène quelque chose qu'il faut dire. C'est une forme de résistance, d'aller parler dans la rue, de faire un concert, de manifester, s'il y a besoin, de se confronter avec la police pour se défendre, oui, aussi. Cette grève de faim, elle est aussi inspirée de... J'ai lu que c'est inspiré par le militant kurde. Ça fait depuis le 5 février qu'il est en grève de faim à l'hôtel Schradis. Il est un habitant du quartier, il a choisi de mettre en enjeu sa vie pour la cause. Il prend un peu de sel, de sucre et de minéraux juste pour on peut imaginer la valeur que ça représente pour lui et pour les autres là-bas.
Et c'est vrai que quand tu parles de cause, on l'a compris, c'est aussi une cause internationaliste avec des organisations révolutionnaires de Turquie, du Kurdistan, qui résident également au sein de la communauté. Donc le régime de Mitsotakis voit Rosvika à la fois comme un adversaire politique qu'il cherche à détruire, mais également comme un bien économique qu'il rêve de piller et d'exploiter. Si demain, Rosvika est expulsée, est-ce que tu penses que ce serait une défaite politique ou est-ce que tu considères que ce qui a déjà été construit à travers les liens, les pratiques, les formes d'organisation peut dépasser déjà ce lieu physique?
En parlant avec la caissée, du coup, c'est une fille de l'organisation de Marseille, une fille grecque, elle était dans la crèche à Porchefica, elle faisait partie dans tous les cas, elle connaît bien le truc là-bas. Quand on a parlé, etc., elle m'a laissé un message, elle m'a dit, en répondant sur cette question, qu'ils ne peuvent pas imaginer, en fait, de ne pas gagner. Ah ouais. C'est hors question, c'est hors de notre imaginaire de penser que les gens vont être expulsés, parce qu'on parle, comme on a dit avant aussi, ça sera une catastrophe. Il y aura plein de gens qui vont mourir dans la rue, et d'autres qui vont être en galère, en énorme galère. Personnellement, je dis que j'ai l'espoir parce que on a vu plein de catastrophes dans tous les cas. C'est pas inimaginable. Mais quand on parle d'un système d'organisation d'une commune qui est si structuré, que du coup il y a des valeurs, qu'il dure parce que ça fait 16 ans quand même. Que les gens, ils font des rassemblées tous les lundis, qu'il y a de toutes ces structures-là, d'hébergement, de quai, qu'on a parlé. Du coup, il y a tout ça qui fonctionne, c'est déjà engagé. Du mal à imaginer que ça va s'arrêter. C'est une défaite, on peut dire, c'est pas vraiment une défaite, en fait. Même s'il y a l'expulsion, comme on a dit, on veut pas même y penser. Je crois que, oui, sûrement... Il y a les bases et j'espère que dans tous les cas il y aura ces ordres d'organisation par ailleurs aussi hein, ou de la même équipe qui s'organise aussi dans d'autres lieux, c'est rien, ou bien d'autres équipes qui se forment inspirant de ces actions-là.
Avant de se quitter, j'aurais bien aimé aussi que tu nous expliques les origines du Rebetiko.
Bien sûr, en vrai, c'est complètement lié. Donc, c'est très bon comme question pour le Rebetiko, parce que le Rebetiko, ça existait, on peut dire que ça préexistait dans les grands ports de la mer Égée. Et même au début du siècle précédent, ça, c'était déjà en train de se former par les musiques rurales de la ville, etc., et qui bien sûr est influencé par la musique de campagne aussi dite traditionnelle, mais c'est après l'arrivée des réfugiés en 1923 du coup de l'Asie mineure et qui eux ils l'ont amené parce que c'était la culture c'était très similaire mais il y avait ses propres caractéristiques quand même et ces mélanges là. Les instruments dits orientaux, comme les ouds, les canouns, les violons, c'est... En arrivant en Grèce, il y a ces mélanges qui créent les rebetiko. Et aussi les bouzouki, comme instrument emblématique, ça prend son rôle à cette époque-là. Il y a beaucoup de compositeurs apportant du rebetiko de la première période, dans tous les cas, qu'ils ont eux-mêmes des réfugiés. Dans les années 38, il y a une première dictature en Grèce où interdit... La musique rebetiko de manière que c'était joué et donc ces compositeurs ils ont obligé de changer d'adapter leur style parce que les sonorités qui paraissaient orientales en fait ça considérait turc donc mauvais donc interdit ils cassaient les instruments, ils cassaient les bouzouki des gens dans la rue, la police et s'ils te voyaient avec un bouzouki sur la roue ils te prenaient, ils la cassaient devant toi et dans tous les cas, il y avait de la répression. Du coup, les rebetiko, à ce moment-là, ça passait un peu dans un autre spectre un peu invisible, mais qu'il influençait toujours la musique grecque, folk et populaire. Ensuite, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a encore une période qu'on peut considérer comme rebetiko jusqu'aux années 50, mais après ça, on parle de musique grecque populaire. Qu'elle était quand même nourrie par les rebetiko. Et c'est les années 80, un compositeur contemporain très important, Manos Hadzidakis, qui a fait une conférence sur les rebetiko et qui l'a démontré au monde, il a dit, en fait, parce que c'était mal vu, les rebetiko, à l'époque. C'était vu comme la musique des réfugiés, des drogués, des gens des marginaux, parce que c'était aussi la vérité. D'un côté, les gens de Pirée, les réfugiés de Pirée, ils en étaient hors la société, donc ils se retrouvaient entre eux, dans les petits lieux où ils faisaient leur musique. Donc, d'un côté, c'est vrai, mais c'est pas du tout qui est ça, en fait. Et c'est ça qu'il a démontré, Hadzidakis, les années 80. Il a dit, en vrai, c'est notre héritage culturel. Et du coup, il est revenu, et les années 90, ça a commencé à revenir, les rebetiko. Et bien sûr, tous ces compositeurs que nous, avec Maud Broulin, en fait, les répertoires, c'est de reprises. On fait des arrangements de morceaux des années 70. des morceaux de résistance contre la dictature de l'époque. Et du coup, ce compositeur-là, bien sûr, qu'il était au courant, qu'il était un peu la continuité du rébétique aussi, même s'il n'y a pas un lien direct exactement, mais on le sent, on le sait. Et c'est sûr que oui, jusqu'à aujourd'hui, heureusement aujourd'hui, cette relation, elle établit. Les nouvelles générations, ils jouent du rebetiko comme c'était joué à l'époque. Il n'y a plus ce genre de malattendu, on peut dire, ou de tabou de la société. Et c'est de nouveau d'actualité. Merci beaucoup pour l'accueil, d'abord. C'est pas qu'il y a un concert, le plus important, c'est vraiment d'informer les gens sur la situation en Grèce en général. D'un côté, je vois que les gens en France, ils sont intéressés à comprendre la situation. C'est pas facile parce qu'il y a plein d'éléments. On a évoqué pas mal ici aujourd'hui, donc ça, c'est très positif. Et après, il y a la mission spécifique où on s'est engagé de soutenir les projets de la communauté de Prosfigika. Voilà, avec Mo Brulin, on faisait toujours l'inauguration de 17 novembre pour la fin de la dictature en Grèce. Et du coup, on avait toujours cet aspect politique et révolutionnaire qu'on voulait démontrer. Et là, du coup, c'est un arrangement de ces morceaux classiques, on peut dire, où musicalement parlant, il y a cet aspect rock qui donne cette notion de rage, on peut dire, et d'envie de lutter, de résister à l'oppression qu'on vit aujourd'hui.
Mais écoute, merci à toi, à très bientôt.
À bientôt.
Salut, ouais, ciao, bye bye.
Βαριά. Και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσω ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστά, ξοπίσω εμείς και εμείς σε μέλι. Κάτω από τον ήλιο αναγαλιάζαν οι ελιές φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες στέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότε που σ' έφεραν κατσίβελε στην πόλη. Τσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί, το πορφυρό στο τοίχο της και Σοριανής, μας φέραν από πίσω κι σαν αντρή κι ο ανάστημα ψηλώσαν το σώρο. Κοπέλες απ' το δίστομο, φέρετε νερό και ξύδι πάνω στη φοράδα σου. Εμένα στα φρωτά, σύρε για εκείνο το στερνό στην Κόρδοβα ταξίδι, μέσα απ' τα διψαζεμένα της χωράφια τα νυχτά. Βάρκα του βάρτου αναστροφή φταίνει, δίχως καρένα σύνεργα που σκουριάζουνε σε γη. Σπάρει κοράκια να πετά στην έρημην αρένα και στο χωριό να αρλιάσουνε τη νύχτα αυτά σκύλια.